Merci, mon commandant. Nous allons passer maintenant aux questions et réponses. Les règles n'ont pas changé en 2013, c'est toujours les mêmes règles qu'en 2012. Veuillez fermer vos téléphones ou les mettre sur silencieux. Et à toutes les personnes qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Levez la main, on va vous passer un micro. Nous prenons la première question sur la gauche.
Merci, moi c'est Flavien Mfons pour le compte des Planètes Télévisions. Je reviens pour la situation à l'Équateur. Combien est-ce que vous avez déjà évalué par rapport aux réfugiés qui se trouvent là-bas? Il y a combien de sites et où sont localisés les sites là où les réfugiés sont logés? Ça c'est la première question. Deuxième préoccupation, le Conseil de sécurité vient de donner le trône des surveillances à la MONUSCO pour le déploiement bientôt d'une force neutre à l'est du pays. Moi, j'aimerais savoir quelle sera la part de la MONUSCO sur le terrain, parce que nous connaissons bien cette force-là, sera supervisée par le général tanzanien. Merci.
La première question, allez-y, mon commandant.
Concernant l'Équateur, là, il y a eu une équipe conjointe humanitaire qui a séjourné dans la partie Mobayi, donc du 1er au 4. Présentement, une autre équipe est partie vers Zongo du 9 au 12. Concernant la partie Mobayi, je vous ai donné dans la synthèse le nombre de 286 réfugiés, qui a été revu à la baisse ce matin à 197. En général, ils vivent à l'habitant. Il n'y a pas de site officiel. Il y a les églises qui les accueillent et qui demandent aussi un soutien. Concernant Zongo, pour l'instant, on n'a pas eu d'afflux, mais la mission qui est allée là-bas va confirmer ou infirmer la situation. Les éléments FRDC de manière préventive se sont déployés le long de la frontière, comme je l'ai tantôt décliné dans la synthèse, pour empêcher surtout l'infiltration d'éléments armés, que ce soit des FACA, donc les forces armées centrafricaines, ou les rebelles de la coalition Seleka.
Concernant la deuxième question, le Conseil de sécurité n'a pas donné mandat de supervision de la force internationale neutre à la MONUSCO. Nous avons en ce moment, je dirais, dans la région, le conseiller militaire du secrétaire général, le général Guy, que vous connaissez très bien, puisqu'il a été le commandant de la force de la MONUSCO pendant plusieurs années. Il est en train de faire une tournée des principales capitales et il doit terminer par la République démocratique du Congo, justement pour parler de cette force internationale neutre, de sa composition, de son mandat, etc., etc. Donc, pour le moment, la MONUSCO n'a pas eu mandat de supervision de cette force internationale neutre. Deuxième question, Monsieur Marley.
Roger Marley, Lukunga, CNCTV, Journal Le Paris. Je m'introduis un peu dans le vocabulaire militaire, mais ça vaut la peine pour des précisions utiles. J'aimerais savoir en quoi la patrouille de domination des terrains est-elle différente d'autres patrouilles qu'on exécute à l'est de la République démocratique du Congo.
Au commandant.
En fait, une patrouille de domination, c'est une présence plus dissuasive au niveau... en général, c'est une patrouille motorisée. Quand on dit motorisé dans le jargon militaire, c'est des engins blindés. Donc, au niveau du potentiel d'emploi de la force, la patrouille de domination, elle est mieux armée. Elle est différente, par exemple, d'une patrouille à pied qui vise des objectifs différents. Une patrouille à pied, c'est plus pour discuter. C'est des patrouilles de proximité, de vérification, de mise en confiance, à la différence d'une patrouille de domination. C'est vraiment un plus haut niveau au niveau de l'équipement militaire, mais aussi un potentiel de réaction beaucoup plus fort.
Prenons une autre question, oui. Allez-y.
C'est Didon Sapou du journal La Prospérité. J'ai deux petites préoccupations à poser. La première, je la soumets au porte-parole civil. Et la seconde, au porte-parole au commandant Dienne. Monsieur le porte-parole civil, pendant, au courant des festivités de fin d'année, les hélicoptères de la MONUSCO ont été l'objet de tirs nourris de la part des éléments du L23. Et vous en étiez plein, et vous avez décidé de pouvoir poursuivre ces actes-là en justice si jamais ça continuait. J'aimerais savoir, quels sont les mécanismes que vous préconisez lorsque des éléments des casques bleus de la MONUSCO sont attaqués par une source négative. La seconde question, je voulais poser au commandant Dienne, qui, lorsqu'il a évoqué le cas du Chute Kivu, il a parlé des affrontements entre les éléments du Raya Mutomboki et des éléments du FRDC. Mais d'après une agence de presse chinoise, on a rapporté qu'il y a eu vraiment des affrontements qui ont fait que des officiers de FRDC ont été tués. Et on a même annoncé qu'il y a eu un déplacement massif de populations qui ont quitté Kishadou vers Walungu et les territoires Shabunda. Je voulais savoir, est-ce que vous confirmez ces déplacements des populations et quelles sont les mesures qui ont été prises pour pouvoir normalement rendre la situation normale à cette partie du territoire congolais. Merci.
Merci. Concernant la première question, d'abord, vous devez savoir que les casques bleus sont une force de maintien de la paix. Une force de maintien de la paix. Donc, toute attaque directe sur les casques bleus est considérée comme un crime de guerre. Et c'est dans ce cadre que la MONUSCO a fait remarquer que ces attaques directes contre les hélicoptères de la MONUSCO constituaient un crime de guerre. Et en tant que tel, ceux qui sont responsables de ces attaques peuvent en répondre devant les juridictions compétentes. Pour votre information, les hélicoptères de la MONUSCO sont les seuls aujourd'hui en République démocratique du Congo qui sont équipés pour faire des vols de nuit. Donc, tirer sur des hélicoptères la nuit et dire qu'on ne sait pas qui sont ces hélicoptères, je pense que ce n'est pas une excuse. Parce qu'il est bien connu dans cette zone opérationnelle que seules les forces de la MONUSCO aujourd'hui sont équipées pour faire des vols de nuit. Mon commandant.
Oui, c'est pour confirmer la source que vous avez citée par rapport à l'incident que vous avez nommé. En fait, il y a plusieurs incidents. Comme je l'ai dit dans la synthèse, il y a une expansion des activités des Raya Mutomboki au niveau du nombre, mais aussi au niveau territorial, au niveau géographique. Ça s'explique en partie par un certain vide créé par le déplacement des troupes FRDC vers le nord, mais aussi par des raisons que vous n'ignorez pas, économiques, qui sont liées aux activités minières. Concernant les déplacements de population, je ne citerai pas le nombre de 2000, parce que ça a été vérifié au niveau des équipes humanitaires. Certaines populations qui avaient fui la région de Kilwé et tout ça là, sont revenus du fait des combats, mais aussi certaines populations ont peur de futurs combats, parce qu'il y a des rumeurs de futurs déploiements de FRDC en réaction. Donc les renforts éventuels des FRDC seraient, pour ces populations, source d'autres combats à venir entre les Raya Mutomboki et les FRDC. Mais je confirme les combats, je confirme les deux officiers FRDC tués, mais le nombre de populations déplacées est à minimiser par rapport à la source que vous avez citée.
Merci. Nous prenons la prochaine question. ACP.
Merci. Kéré Maïs, l'Agence congolaise de presse. Monsieur le porte-parole, je voudrais comprendre quelque chose. Vous avez dit qu'une attaque contre les casques bleus est considérée comme un crime de guerre. Mais la MONUSCO évolue actuellement sous le chapitre 7. Ça signifie que les casques bleus peuvent riposter en cas d'attaque. Est-ce qu'il y a une relation entre le chapitre 7, je voudrais comprendre quelque chose, et une attaque qui serait dirigée contre les casques bleus, et comment ça se passe? Vous voulez nous expliquer un peu le chapitre 7?
Oui. je pense qu'on l'a expliqué plusieurs fois ici, mais je vais encore l'expliquer. Le chapitre 7 n'est pas seulement une autorisation d'utiliser des armes. Le chapitre 7 comprend toute une série de sanctions qui peuvent être prises contre des individus, des États ou des organisations, des mesures coercitives lorsque cela est nécessaire dans le cadre d'une recherche d'une paix durable. Dans le cas d'espèce, en plaçant la mission, la MONUSCO donc sous chapitre 7, c'est-à-dire que ces forces militaires sont autorisées à utiliser des armes. Mais ce n'est pas encore une fois un chèque à blanc qui autorise les casques bleus à tirer sur tout ce qui bouge. Il y a ce qu'on appelle les règles d'engagement. Les règles d'engagement stipulent les conditions dans lesquelles les militaires de la MONUSCO peuvent utiliser leurs armes. Donc, ne comprenez pas chapitre 7 comme étant uniquement l'utilisation des armes. Il y a aussi des mesures coercitives qui sont d'ordre économique, par exemple, qui peuvent être prises. Maintenant, vous parlez de crimes de guerre lorsqu'on tire sur les forces de la MONUSCO. Oui, je vous le répète encore une fois, les militaires de la MONUSCO sont d'abord au service de la paix. Lorsque l'on tire sur les forces de la MONUSCO alors qu'elles sont en patrouille, alors qu'elles sont en train de circuler, c'est un crime de guerre, parce que ce ne sont pas des forces qui vont en guerre. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les véhicules de la MONUSCO, y compris même leurs véhicules militaires, sont de couleur blanche. On ne se cache pas avec une telle couleur. Au contraire, si ces véhicules sont peints de couleur blanche, c'est pour qu'on puisse les identifier facilement et ne pas faire d'eux des cibles lorsque ils sont en train de conduire leur mission. Je ne sais pas si cela a répondu à votre question. Merci. Nous prenons une dame, je crois, il y a une dame qui a une main. Non? Ok, alors prenons Chine Nouvelle.
Merci, c'est Steve Wemi pour l'agent Chine Nouvelle. Mon colonel, la situation dans la province du Sud Kivu précisément, dans les localités de Kishadou et Nzibira, où les deux officiers des FARDC ont été tués. Selon les informations, ce sont les Maïmaï Raya Mutomboki qui occupent ces localités. Est-ce qu'il y a des forces qui sont déployées pour libérer, au fait, ces localités? Et puis la deuxième question, c'est à M. Mounoubaï. D'après un communiqué de M23, l'espace survolé par le désengin a été considéré comme opérationnel. Aucune mention sur ces appareils volants n'était visible pour faciliter leur identification. Raison pour laquelle les M23 ont tiré pour permettre à votre pilote de s'identifier. Quelle est votre réaction? Merci.
Mon colonel. Ouais.
Effectivement, par rapport à la situation dans le Walungu, il y a eu des clashs entre les Raya Mutomboki et les FARDC. Et cette situation a évolué entre le 6, le 7 et le 8, avec centré principalement sur la localité de Chouloué, qui était sous contrôle des FARDC, reprise par les Raya Mutomboki, et les FARDC ont bougé avec les renforts, ont pu occuper Kishandou, qui est au sud de Chouloué, et Nibiraza au nord, pour vous donner une situation de une idée de la situation. Présentement, au moment où je vous parle, c'est encore à confirmer, mais les Raya Mutomboki seraient en train de s'exfiltrer de Chouloué sous la pression des FARDC. Nous avons une position, un CIOBI à Kalongo, qui est en mesure, donc avec le système des alertes network au niveau des protections, des réseaux de protection des civils, mais aussi des communautés et des chefs de villages et de communautés. En plus des patrouilles, nous avons des éléments qui nous rendent compte de l'évolution de la situation. Donc voilà la dernière situation concernant le Walungu. Donc c'est une situation fluctuante, mais présentement, la pression des FRDC a fait qu'ils ont pu récupérer Kitshandu, Nibiriza, mais une pression sur Chiloué qui fait que on pense que d'ici la fin de la journée, la confirmation de la nouvelle de la reprise de Chiloué par les FRDC devrait nous affirmer. Devrait nous arriver, mais à confirmer.
Voilà. Concernant votre question, je pense que les seules forces en République démocratique du Congo avec lesquelles nous travaillons et que nous devons informer de nos opérations restent les forces armées de la République démocratique du Congo. Les M23 ne sont pas différents des FDLR, des Mai Mai et autres groupes armés. Ce serait ironique, vous conviendrez avec moi, que pour conduire nos opérations, nous devons maintenant demander une autorisation à ces forces rebelles, à ces forces qui hors la loi, pour lesquelles le Conseil de sécurité nous demande de mettre fin à l'existence, afin de permettre à la République démocratique du Congo de retrouver son plein droit sur son territoire. Voilà la réponse que je peux vous donner. Nous prenons une dame au fond.
Patricia Panzoubi, One Télévision. Les rencontres se poursuivent à Kampala. Est-ce que la MONUSCO suit-elle ces pourparlers? Si oui, quelle lecture faites-vous à ce niveau?
Nous restons attentifs à toutes les rencontres, à toutes les discussions qui peuvent contribuer à une paix durable en République démocratique du Congo. Pour le moment, nous n'en faisons aucune lecture. Comme moi, vous savez que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Par conséquent, nous restons à l'écoute et nous restons attentifs à tout à ce qui va se passer à Kampala. Nous passons un peu sur la droite. Y aurait-il des questions sur la droite? Sinon, je prends devant moi. Oui, allez-y.
Robert Moula pour le compte de Raga Télévision. Je m'adresse au colonel. C'est juste une question de précision. Dans votre introduction, vous avez parlé des menaces sur la ville de Goma. C'est une question de curiosité. À ce stade, où se situent les... Quelle manière évaluez-vous cette menace et où se situent les forces en présence? Je parle du M23 et des forces armées de la République démocratique du Congo. Deuxième préoccupation, avez-vous des opérations concrètes ou conjointes sur place dans la ville de Goma ou dans ses environs avec les forces armées de la République démocratique du Congo? Je dis merci.
Je vous remercie, M. Robert. Concernant Goma, le niveau de menace a été jugé moyen. Parce que, justement, le M23 a des éléments à moins de 3 km de la ville, en violation des recommandations de la CIGRL, parce que c'était la zone de séparation était supposée être de 20 km. Donc, ils sont à Mounougui, avec probablement des possibilités de venir, parce que Goma est une grande ville, de rentrer et de sortir comme ils le veulent, parce que nous, malgré nos patrouilles, il faut quand même replacer les choses dans un contexte. Avant la chute de Goma, il y avait près de 8000 forces congolaises, 4000 policiers, 4000 FRDC dans Goma. Nous, on était à 1500. Aujourd'hui, il y a à peu près 2200 policiers, 650 FRDC. C'est pour vous remettre les choses dans le contexte. Combien la sécurisation de Goma va être difficile. C'est ça la réalité. Nous avons des patrouilles que nous faisons, que nous effectuons journellement, de jour comme de nuit, mais il y a un effort, il y a un niveau de banditisme qui déjà était d'un certain niveau avant les problèmes. En plus, il y a eu 1200 évadés de la prison. Vous avez tous dû entendre parler de l'ex-colonel Ali ou Mouana Ali qui aurait été tué par d'autres Maïmaï. Pour vous dire qu'il y a un problème au niveau de la taille, de la complexité de la sécurité de Goma. Votre deuxième question est relative à des opérations conjointes. Je vous rappelle notre mandat qui est de soutenir et d'appuyer les FRDC. Nous le faisons tous les jours. Et j'avais déjà expliqué, ça revêtait trois formes. Une préparation par l'entraînement, la formation. Un soutien logistique conditionné, parce que il y a un contexte de profilage des unités, mais aussi une aide à la planification. Donc, présentement, avec les FRDC, les PNC, nous contribuons à la sécurisation de Goma et ses alentours, mais aussi des camps de réfugiés et de déplacés, comme j'en ai parlé, en respectant les principes humanitaires, en veillant à ne pas violer l'espace humanitaire.
RTGR? Non? Derrière.
Okay. Patrick Nganga pour l'expression. Je pose la question, la première question au colonel. Est-ce que vous pouvez nous donner la situation sécuritaire à Mambasa et vers le lac Albert? La deuxième question, M. Mounoubaï, les paroles s'envolent, les écrits restent. Est-ce que vous avez saisi la Cour pénale internationale concernant des tirs sur des hélicos de la MONUSCO?
Commandant.
Concernant Mambasa, peut-être résumer rapidement ce qui s'est passé. C'est le 5, à peu près 300, le 5 janvier, 300 Maïmaï, qui serait une coalition entre les Maïmaï Simba de Paul Sadala alias Morgan, mais aussi, on dit même des Maïmaï Lubumba avec l'ex-colonel ou déserteur Hilaire avec ses hommes, qui, il y a quelque temps, ont occupé Pangoy, là, au niveau des mines de Pangoy. Donc, ils ont attaqué les FRDC, comme expliqué, repli stratégique, appuyé par les troupes motorisées de la MONUSCO, en particulier le bataillon bengladais. Ils ont fait une contre-offensive qui a été payante. Ce qu'il faut aussi préciser, il y a eu des problèmes logistiques. Il a fallu l'intervention des hélicoptères de la MONUSCO pour réapprovisionner en munitions les FRDC, qui se sont vaillamment battus, qui ont eu des pertes importantes. Parce qu'au moment de l'impression de ce document que j'ai lu, on était à 3 morts. On parle même maintenant de 6 morts. C'est à confirmer. Mais les blessés, au lieu de des 6 dont j'ai parlé, la MONUSCO en a soigné 14, dont 3 dans un état sérieux, qui ont été évacués d'abord de Mambasa à Bounia, et ils sont en train d'être héliportés présentement vers Goma. Donc, c'est une action conjuguée FRDC MONUSCO qui a permis, c'est vraiment le prototype même d'exemple d'application du mandat, où nous appuyons des troupes nationales, nous travaillons en bonne intelligence, en toute responsabilité avec eux, et les résultats sont probants. Voilà pour ce qui est de Mambasa. Concernant le lac Albert, la situation n'a pas évolué. C'est toujours les mêmes éléments. Donc, je ne vais pas trop me pencher là-dessus. La situation n'a pas évolué.
Oui, juste peut-être pour ajouter un peu à ce que vient de dire le commandant. Avant que je vienne ici dans la salle, il y a un collègue qui m'a posé cette question. Pourquoi vous vous êtes battu à Mambasa et vous ne vous êtes pas battu à Goma? Je crois que la réponse est dans ce que le colonel vient de vous dire. À Mambasa, les FRDC ont posé leurs pieds par terre et ils n'ont pas bougé. Ils se sont repliés, mais ils sont revenus et ils se sont battus, comme il l'a dit, vaillamment jusqu'à reprendre Mambasa. Donc, il y avait des FRDC à soutenir et nous les avons soutenus avec tous les moyens que nous avions, conformément à notre mandat. Voilà la différence entre Goma et Mambasa. Maintenant, pour revenir à la question, est-ce que nous avons porté cette question de l'attaque de nos hélicoptères devant la Cour pénale internationale? Non, nous ne l'avons pas fait parce que ce n'est pas, je dirais, du tac au tac. Il y a quand même des étapes à suivre, il y a des avertissements à donner. Il faut prendre ça en compte, il y a des enquêtes à faire et depuis que cette attaque a été faite sur nos hélicoptères, il n'y a pas eu d'autres depuis que nous avons donc fait cet avertissement, il n'y a pas eu d'autres attaques sur nos hélicoptères. Donc, si cela venait à se refaire, si nous constatons que c'est une chose régulière de la part des M23 tirés sur nos hélicoptères, alors nous allons donc franchir la prochaine étape. Sur la droite, derrière vous, prenons RTNC derrière vous, RTNC. Il nous reste 3 minutes.
Oui, merci. Je vais intervenir en fonction de ces 3 minutes. Monsieur Mouloubaï, vous l'avez déjà dit, c'est vrai, la MONUSCO est une force de maintien de la paix, ce qui vous a poussé à plusieurs retenues pour, suite à des provocations dont vous avez été l'objet. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous étiez demandé de changer de mission de maintien de la paix à la mission d'imposition de la paix? Accepteriez-vous cela avec de tout cœur? Voilà donc ma préoccupation.
Nous n'avons pas à accepter ou à ne pas accepter. Nous sommes ici avec un mandat que nous donne le Conseil de sécurité. Ce que le Conseil de sécurité nous demande de faire, nous allons le faire. Le Conseil de sécurité, c'est notre patron. Donc, quand il nous donne un mandat, ce n'est pas simplement le mandat. Il veille aussi à ce que nous ayons les moyens nécessaires pour accomplir ce mandat-là. Oui, allez-y, M. Omba.
Oui, Albert Omba, America TV. Je voudrais demander au commandant Dieye, après vos patrouilles aux environs de Goma, est-ce que vous avez pu constater qu'il n'y a pas de turbulence au sein de l'observation dite par le M23 de garder le cessez-le-feu? Est-ce qu'il y a eu... ce cessez-le-feu a été quand même violé?
Je voudrais d'abord vous dire que officiellement il n'y a pas de cessez-le-feu. Donc nous observons des activités du M23 avec, comme je l'ai dit, à Mounougui, mais aussi dans le Rutshuru, avec même un renforcement d'activités autour de notre poste de Kiwanja. Donc le M23 continue ses activités. Voilà.
Ok, merci beaucoup. Nous allons vous remercier pour avoir fait le déplacement pour cette première conférence de presse. Nous vous demanderons de bien vouloir rester encore dans la salle pour quelques minutes. Nous remercions nos auditeurs de Radio Okapi qui nous ont suivis en direct et nous rendons l'antenne. Merci.